Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois scruter ta parole, mais nous reconnaissons en toute humilité que nous n'avons ni les compétences, ni l'intelligence pour connaître ta pensée. Et ta parole dit que tes pensées sont impénétrables, insondables. Seigneur, c'est pourtant ce que toi tu veux, que nous puissions connaître ta parole, que nous puissions grandir dans ta parole, que nous puissions pratiquer ta parole. Alors, ce matin, nous te supplions de venir illuminer notre intelligence, illuminer notre cœur afin que nous comprenions ta volonté, que nous comprenions ta parole avec l'aide du Saint-Esprit. Merci de nous conduire dans le partage ensemble et de donner à chacun sa part que tu lui réserves aujourd'hui. Seigneur, je te fais cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, on va faire un petit essai, on va faire un petit retour dans le passé. On va se replonger dans les souvenirs des préparatifs du mariage de Simon-Pierre et d'Aurélie. On me dit, mais qu'est-ce qu'il est occupé à faire là? Quelle organisation, n'est-ce pas? Alors, Patty nous a coordonné les choses. Elle a demandé à diverses tâches aux gens, aux uns et aux autres. Hein, les dames ont fait des akouskis, c'était très bon d'ailleurs, soit dit en passant. Il y en a même une qui a dit qu'elle a essayé les radis, c'est très bon. Moi je les ai tous goûtés, hein, parce que voilà, je voulais quand même être sûr que voilà, les membres de mon église savent vraiment préparer. Non, c'est la gourmandise. Alors les uns ont fait des akouskis, les dames notamment, et les messieurs ont rangé les chaises, ont aidé pour les déplacements des choses, etc. Et chacun à sa façon a donné un coup de main. Et ce n'était pas que notre église, que les gens de notre église, d'autres sont même partis chez elles là-bas pour aider par rapport à comment on appelle ça, à préparer la maison, le jardin pour accueillir les invités après la cérémonie civile. Mais il n'y a pas que nous. D'autres personnes aussi se sont joints de différents endroits, de différents lieux. Simon-Pierre, sa famille et d'autres personnes ont tous mis la main à la pâte. Et quand on prend toutes ces tâches individuellement, ça reste des tâches ponctuelles qui n'ont rien à voir les unes les autres. Mais quand on les met tous ensemble, on se rend compte que l'ensemble de chaque acte qui a été posé, de chaque tâche qui a été faite, a contribué à la réussite du mariage, de la cérémonie religieuse du mariage, de la bénédiction nuptiale. Toutes ces choses ont contribué, ont coopéré à la réussite du mariage. Alors voilà, ça c'est juste pour l'illustration. Notre défi en tant qu'église est bien sûr de réussir ensemble, de réussir le projet de vivre ensemble, de travailler ensemble, de réussir le projet de bâtir cette église pour le Seigneur ensemble et de pouvoir nous en réjouir plus tard ensemble en exprimant notre reconnaissance à Dieu qui rend possible toute chose. C'est un peu, ce matin, le message que je voudrais partager avec vous en ce début d'année, pour nous, la coopération mutuelle. Travailler ensemble, coopérer ensemble, mutuellement. Et je vais proposer ici, à travers ce texte que nous allons lire, 4 clés pour réussir ensemble. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles, notre Bible, et nous allons lire cet épisode du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 17, du verset 8 à verset 16. C'est un texte connu, que nous connaissons, mais c'est un texte que j'aime beaucoup. C'est un texte qui est une source d'inspiration pour des messages de toutes sortes. C'est une étape vraiment cruciale dans la vie du peuple d'Israël et Je trouve qu'il y a tellement d'enseignements. Mais ce matin, je voudrais puiser quatre clés qui nous aident à réussir ensemble dans cet esprit de coopération mutuelle. Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 15. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne, de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. » Dernier verset, « Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. » Peut-être que vous connaissez ce texte, peut-être l'avez-vous déjà lu, peut-être avez-vous déjà eu des messages là-dessus. En tout cas, c'est un texte que je crois que c'est peut-être la troisième ou la quatrième fois que je prêche, chaque fois avec des aspects différents que je prends dans ce texte. J'aime bien ce texte. Le peuple de Dieu vient de sortir de l'esclavage de l'Égypte. 400 ans d'esclavage. Et ils ont souffert, humilié. Ce n'est pas un peuple encore, c'est une peuplade. C'est une population en désordre. Mais Dieu veut en faire un peuple. Il veut en faire une nation. C'est le projet de Dieu avec eux. Le peuple est donc en route vers la terre promise. Imaginez la scène. Imaginez cette scène-là. Une colonne humaine, quoi. Une colonne énorme de centaines de milliers de gens qui sont en train de traverser des terres. Imaginez la scène. C'est quand même impressionnant, non? Des réfugiés. Hein? Centaines de milliers de réfugiés qui sont occupés à venir vers la Belgique. Qu'est-ce qui va se passer? Mobilisation de l'armée. Police, etc. On ne passe pas ici, les gars. Non. Vous êtes trop nombreux. Vous allez aller vivre où? Comment on va faire avec vous? Quelle pagaille! Des immigrés qui sont en train de circuler comme ça sur des territoires. Et ils sont sur le territoire d'Amalek. Amalek est inquiet. Il dit, ces gens ne doivent pas rester chez moi. Hein. Non, ils sont trop nombreux. Mais en même temps aussi, il n'y a pas que le refus d'accueil, de capacité d'accueil. Mais c'est aussi refus parce qu'Amalek et Israël se détestaient gentiment. Et donc, c'est aussi par la haine, par les préjugés, par le rejet de l'autre. Je ne sais pas qui il est, mais j'en veux pas, c'est tout. N'importe quel pays se serait mis en guerre. Aujourd'hui, vous avez entendu que la Hongrie, pays par lequel passent beaucoup de réfugiés, commence même à faire des exercices militaires pour pouvoir empêcher que sa frontière puisse être utilisée comme point de passage. Ils savent bien que ce n'est pas en Hongrie que ces réfugiés veulent rester. C'est juste qu'ils veulent passer. Mais ils ne veulent pas qu'ils passent. C'est exactement la même situation que le peuple d'Israël à ce moment-là. Il passe sur le territoire d'Amalek. Il ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas le territoire que Dieu lui a prévu pour lui. Ils ne font que passer. Mais cet afflux d'individus dérange énormément. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur l'accueil aux réfugiés, mais ce n'est pas le but pour lequel je partage ce matin. Amalek donc se met en guerre. Il attaque, stratégie d'accueil, de guerre. Il attaque la colonne là où la colonne est la plus faible, c'est-à-dire à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, il y a des traînards, il y a des indisciplinés, il y a des désordonnés, vous voyez, dans une école, dans une classe. Vous savez que, mais peut-être que on a moins ça maintenant, mais de mon temps, tous les élèves qui étaient au fond de la salle, on les appelait les cancres. C'était les indisciplinés. C'était ceux qui ne savaient, qui ne voulaient pas étudier. C'était tous les turbulents. C'est tous les gens difficiles. Aujourd'hui, quand un enfant est difficile, on le met plutôt devant. Le prof le met devant, comme ça, il est né à nez avec lui, et voilà. L'enfant se calme en général quand c'est comme ça. Eh ben, l'arrière, Amalek va l'attaquer. Il va commencer à les malmener. Et vous savez aussi que, je ne sais pas si vous savez que, lorsque le peuple d'Israël sort, il quitte l'Égypte, il y a d'autres nationalités, hein, d'autres peuples aussi, et même des Égyptiens qui les suivent aussi, impressionnés par la grande main de Dieu. C'est toutes ces personnes qui sont à l'arrière. Donc la stratégie est simple. C'est un jeu de domino. Tu fais basculer l'arrière, et puis tac, 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 tout s'écroule jusqu'au début. C'était ça, la stratégie. Et donc, Amalek se met donc en guerre et il commence à attaquer donc Israël. Il commence donc la guerre en espérant affaiblir puis aplatir l'ensemble de la colonne. C'est alors que le peuple d'Israël, dans son ensemble, réagit contre cette agression militaire. Comment est-ce que les Israélites vont-ils réussir à combattre victorieusement Amalek? C'est ce que je vous propose ce matin, de regarder à quatre clés qui ont permis qu'ils puissent réussir ensemble. Nous allons donc parcourir le texte et chaque fois découvrir, parce que ce sont des points qui se suivent. Hein. Première clé, je l'ai intitulée « Une coordination, une stratégie ». Une coordination, une stratégie. Verset 9. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-toi, choisis-nous des hommes et combat. Moi, je me tiendrai, hop, sur la colline avec la verge de Dieu. C'est la stratégie. Nous avons choisi comme stratégie d'aller sur le terrain, faire face à l'ennemi, mais aussi de pouvoir prier en étendant la verge, le bâton de l'Éternel au sommet de la colline. Pour réussir ensemble, il faut une seule stratégie. Il faut une seule coordination, un seul coordonnateur. Il faut une équipe qui fait les choses, qui organise les choses et qui s'entend bien à le faire. Quand il y a plusieurs stratégies dans un combat, quand il y a plusieurs chefs, automatiquement, il y a des risques que la guerre soit perdue. Il y a des risques qu'on aille à la défaite. Mais pour que cette stratégie, la seule qui soit acceptée, il faut évidemment qu'elle soit concertée. Il faut que ceux qui vont le mettre en œuvre soient prêts non seulement à l'accepter, mais à obéir. C'est ça le verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse lui-même a tenu parole, il est monté aussi au sommet. Une seule coordination, une seule stratégie, un seul commandement. Alors à ce moment-là, si ce commandement fonctionne, alors si son commandement fonctionne dans le sens que ceux qui écoutent les ordres obéissent, à ce moment-là, la victoire, c'est une des clés pour la victoire. Il y a donc une potentialité à réussir de cette façon-là. Il en est de même aussi dans l'œuvre d'Église, n'est-ce pas? Il y a une direction et elle a la responsabilité de pouvoir mettre en place des stratégies pour aller de l'avant. Mais il faut la coopération de tous, c'est-à-dire la coopération de l'ensemble des membres pour réussir. Il faut se donner la main d'association pour dire, OK, ce projet-là, on le fait ensemble. On le fait ensemble, chacun, comme je disais avec l'histoire du mariage de Simon-Pierre et d'Aurélie, chacun fait des différentes tâches. Ça a l'air de ne pas être en cohérence les uns des autres, parce que ça a l'air que si on les prend individuellement, c'est comme des trucs ponctuels. Mais l'ensemble coopère, travaille ensemble à la réussite d'un seul et même stratégie. J'avais ajouté, vous vous souvenez, le dimanche passé, que la coopération de tous pour réussir ne peut être véritablement une bonne chose que si les chefs, les responsables, la direction, en l'occurrence par exemple de l'Église, n'est pas considérée comme des dictateurs, mais comme des frères et des sœurs, pour lesquels nous, on éprouve de l'amitié fraternelle. Vous vous souvenez, on a parlé de l'amitié fraternelle en disant que l'amitié fraternelle était quelque chose de super important pour que nous puissions réussir à travailler ensemble. Parce que lorsque nous sommes des amis, nous nous disons les choses amicalement, nous nous corrigeons amicalement, nous nous portons amicalement ensemble. Première clé, une seule coordination, une seule stratégie. Deuxième clé, une seule stratégie mais en deux volets. Ça, c'est le principe ici, on rentre dans le principe de réussite au niveau spirituel. Josué va sur le terrain et Moïse monte sur la colline avec le bâton de Dieu dans sa main. Pour réussir, il fallait d'une part combattre sur le terrain et d'autre part assurer la liaison avec la puissance de Dieu. Beaucoup de gens considèrent que ces deux volets veulent dire, d'une part, il faut l'action du terrain, agir, n'est-ce pas? Et d'autre part, il faut la prière. Ce sont ces deux paramètres qui font réussir l'œuvre que nous entamons pour Dieu. Mais, quelle que soit la stratégie que nous voulons mettre en œuvre, ces deux paramètres sont, il est vrai, très importants. Mais il ne faut pas voir dans la prière simplement la prière. Seigneur, je prie, je te demande, aide, etc. C'est pas que ça. L'action du terrain, oui, j'agis, je fais ce que Dieu me demande de faire sur le terrain. Mais la prière, c'est plus que simplement les mots que je vais dire à mon Dieu. C'est plus que simplement ce rapport d'intimité que je vais avoir avec Dieu. C'est plus que cela, nous allons le voir. Notre réussite ensemble dépend de la manière dont Dieu va être associé à notre projet. De la manière dont notre relation se trouve avec lui pour que nous puissions réussir ensemble. Parce que c'est la voix de Dieu que nous devons entendre pour gagner cette guerre. Moïse tient dans sa main un élément qui symbolise non pas seulement la présence de Dieu, mais la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, qui symbolise que Dieu est là, il est présent, le bâton de Dieu. Et cet élément rappelle la présence de Dieu à laquelle notre foi va être connectée, à laquelle notre foi va se trouver en rapport. Et voyez que la victoire ne dépend pas du travail sur le terrain. Verset 12. Voyez, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre, ils placèrent... le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était plus fort. Voyez, ça ne dépend pas du terrain. Ça dépend de ce que Moïse fait là-bas. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de la connexion avec Dieu. Ça dépend de la relation avec Dieu. Dans nos vies, c'est la même chose. Ce n'est pas ce que nous faisons. Et même si nous faisons les meilleures des choses, même si nous faisons ça très bien, ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine au niveau spirituel notre réussite. Notre réussite dépend de Dieu. Notre réussite dépend de notre connexion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des gens, ils ne font pas grand-chose, et pourtant vous allez voir, tiens, mais ça roule dans leur vie. Et puis il y a des gens qui font plein de choses, mais ça ne roule pas. Ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. Dieu fait grâce, Dieu agit en fonction de lui. C'est lui qui détermine le moment de la réussite. Troisième clé. Donc, première clé, une seule coordination, une seule stratégie. Deuxième clé, une stratégie en deux volets. Je reviendrai sur cette stratégie en deux volets. Mais vous avez bien compris que dans cette stratégie en deux volets, il y a l'action, mais il y a aussi la prière. Mais ça va plus loin. C'est agir, mais agir dans la dépendance de Dieu. Agir dans la connexion avec Dieu. Agir dans la relation avec Dieu. Troisième clé, la coopération et l'entraide. Regardez. La coopération, vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, hein, la coopération internationale, c'est le fait que les États se mettent ensemble pour réussir les différents objectifs qu'ils ont ensemble. Ok? Pour réussir les objectifs que un des pays a peut-être, a peut-être établi et que les autres pays viennent pour l'aider. La coopération internationale, par exemple, contre la pauvreté. Les pays vont coordonner leurs efforts pour réussir à combattre la pauvreté, par exemple. La coopération, donc, est une condition importante pour la réussite de ce combat. Mais il faut, d'une part, bien sûr, la coopération mutuelle. Mais il ne s'agit pas d'un travail des uns, mais un travail de tous. Chacun à sa place. C'est ça la coopération. Chacun travaille à sa place. Chacun est là, contribuant pour le même projet à des niveaux différents. Je n'ai pas à commencer à dire, tiens, moi je suis occupé à faire ce travail, je sais pas moi, c'est moi qui ramasse les cailloux, mais j'arrête un peu de ramasser les cailloux et je regarde un peu mon copain là qui doit aller ramasser les poubelles là. Je dis, hey, oh, dis toi là-bas, ta poubelle, c'est comment ça? Et moi je laisse mon travail. Ça, souvent, ça se passe avec les enfants. Moi, j'ai des enfants, ça me fait toujours rire parce que, alors, on leur dit, préparez-vous. Il y en a parfois un, parmi les enfants, vous avez un qui au lieu de s'occuper de s'habiller, de se préparer, il se tourne vers l'autre. Mais habille-toi, on a dit qu'on doit faire vite, et fais vite, fais vite. Mais lui, il a oublié qu'il doit lui-même se préparer, s'habiller, être prêt aussi. Alors, on se retourne, on doit dire, mais dis, au lieu de t'occuper de l'autre qui n'est pas encore prêt, toi, est-ce que tu es prêt, toi? Habille-toi, prépare-toi, toi-même. Vous voyez? La coopération, c'est pas ça. Le rôle de chacun est important. Chacun apporte sa contribution à la réussite d'ensemble. Mais la coopération n'a pas de sens si elle se fait d'une manière compétitive, d'une manière individualiste. Elle n'a pas de sens. Moïse, vous voyez ici, il n'y a pas que lui qui travaille pour tenir la verge, pour tenir le bâton. Il n'y a pas que lui. Il n'est pas seul. Il a besoin de l'aide des autres. Il a besoin que les autres viennent aussi le porter dans ses efforts. Donc si le travail est plutôt réussi, bien sûr, c'est le fruit de la coopération, mais cette coopération ne consiste pas à travailler de manière compétitive, mais c'est un travail où l'on est prêt à aller prêter main forte à celui qui défaille dans son travail. Il ne s'agit pas de compétition, mais où je dois me distinguer, mais il s'agit plutôt d'un travail d'entraide. C'est pour ça que j'ai dit la clé, troisième clé, la coopération et l'entraide. Il s'agit d'entraide. Donc, nos faiblesses nos faiblesses concernent les autres. Nos faiblesses ne sont pas là pour que nous soyons critiqués, mais nos faiblesses sont là pour que on puisse nous aider à les porter et à aller de l'avant et à les réussir. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. C'est ça la coopération. Savoir s'arrêter par rapport à mon travail pour faire aussi la part de l'autre. Et prendre aussi la part de l'autre là où il est. Ma femme me disait toujours que dans son travail, l'habitude qu'elles avaient entre certaines amies, enfin certaines collaboratrices qui s'entendent bien entre elles, c'était quoi? C'était que lorsqu'ils ont du travail, ils ont leur part de travail à faire, si on voit que l'autre collègue est un peu affaibli ou a du mal ou bien a beaucoup trop de travail, parce que vous savez que parfois dans la répartition des tâches dans une maison de repos par exemple, on peut parfois mettre beaucoup trop de travail pour une personne que pour une autre. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Celle qui a le plus facile, qui a moins de travail, travaille, termine tout sa tâche, tout son ouvrage, et va porter main forte à celle qui en a plus ou celle qui a difficile. Et comme ça, tout le monde a terminé au même moment. Le travail a été fait. Vous voyez? C'est un peu ça, la coopération et l'entraide. C'est savoir venir pour soutenir le travail des autres. Nous sommes dans un monde où la compétition est devenue quelque chose d'horrible. Nous sommes très contents quand nous voyons les autres ne pas réussir leur travail. On est très contents. Parce que ça nous valorise. Ouais. Vous voyez? Il n'est pas capable de le faire, hein? Moi, oui. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça la coopération. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit ensemble. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Première étape. Mais ça ne marche pas. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Vous voyez l'avantage? Lorsqu'ils ont donné ce coup de main à Moïse, dont les mains étaient affaiblies, qu'est-ce qui s'est passé? Ses mains sont restées fermes. Et ainsi, verset 13, Josué vainquit Amalek et son peuple. La victoire est venue par la coopération et l'entraide. Amalek a été vaincu. Quatrième et dernière clé. Après la victoire, l'action de grâce. Josué a gagné la bataille, verset 13 le dit, et c'est un succès collectif. Je suppose qu'il y a là une euphorie, le peuple chante, danse, ils sautent, ils crient, ils sont contents, et c'est vraiment un exploit, battre une nation organisée, quoi. Amalek, c'est une nation, c'est pas comme Israël à l'époque. Israël à l'époque, c'est une peuplade, c'est les gens qui se cherchent encore. Mais là, on a une structure militaire, quoi. Et ils les battent, quoi. C'est un exploit. Et même, regardez le verset 14, Dieu participe à la célébration. Il est content lui aussi. Dieu dit oui, écoute, c'est génial. Maintenant, il faut qu'on écrive tout ça. Il faut qu'on acte, qu'on mette ça dans les annales de l'histoire, qu'un jour cela s'est passé. Quatrième clé, regardez ce que Moïse fait. Verset 15, juste un petit verset. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel. Ma bannière. Moïse ne s'en tient pas simplement à la liesse publique. Il ne s'en tient pas simplement à dire « Ok, bravo les gars, on a réussi, on est le plus fort, on est les meilleurs, on est le plus beau. » Il s'est dit « Waouh, quoi, c'est que nous avons réussi là. Nous l'avons réussi parce que Dieu était là. » Et c'est comme ça que Moïse va poser un geste de reconnaissance. Il va marquer sa reconnaissance et une façon de dire « Oui, nous avons bénéficié de la faveur de Dieu pour réussir notre défi. » Il va bâtir un autel et un autel dont il va appeler, on appelle ça, bon, on ne va pas revenir sur ces déformations-là, mais ça veut dire littéralement, ça veut dire « Yahweh Nissi, Éternel, ma bannière. » Alors, parfois, je me suis dit, mais qu'est-ce que Moïse fait là? Moïse, à sa manière, il veut dire merci à Dieu. Il veut s'assurer pour lui-même et pour le peuple d'Israël que cette guerre-là, cette affaire-là, ce n'était pas une guerre entre le peuple et Amalek. C'était devenu une affaire entre Dieu et Amalek. Être reconnaissant à Dieu, c'est cela. C'est lui remettre la gloire. C'est dire, oui Seigneur, si on a réussi tout ça, c'est grâce à toi. Et en le faisant, on marque d'une manière définitive que cette affaire-là est terminée. Dieu a réussi à gagner avec nous cette histoire. Peut-être pour terminer, que veut dire ma bannière? Pourquoi avoir mis un autel avec l'appellation éternel ma bannière? Vous savez, la bannière, l'étendard, le drapeau, c'est le signe que, à un endroit déterminé, cet endroit-là appartient à celui à qui appartient le drapeau. Et généralement, sur l'étendard, il y a les symboles de la puissance, de la réalité, de la personne ou de la nation. Et lorsqu'on met un drapeau quelque part, ça veut dire que cet endroit-là appartient à la souveraineté de cette nation-là. Éternel, ma bannière, ça veut dire que Dieu est celui à qui nous appartenons. C'est celui qui est devant qui nous sommes soumis, celui dont nous reconnaissons l'autorité, celui dont nous reconnaissons la seigneurie sur nos vies. Voyez, c'est une manière de montrer l'appartenance à Dieu, notre soumission. Et quelque part, c'est ce que Moïse veut montrer. Il veut montrer que, finalement, la victoire que nous avons obtenue, on l'a obtenue pas parce que nous sommes les plus beaux, pas parce que nous sommes les meilleurs, pas parce que nous sommes les mieux inspirés. Nous l'avons obtenue parce que Dieu a agi. Et pourquoi Dieu a agi? Parce que nous lui appartenons. Et que lorsqu'on nous touche, on touche à Dieu. Lorsqu'on nous touche, on touche à Dieu. Et quand on touche à Dieu, Dieu agit. Et Dieu donne la victoire. Alors, ce matin, j'aimerais que ça soit aussi quelque chose qui nous motive. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous sommes son Église. Mais nous lui appartenons. Nous lui appartenons à part entière. Nous sommes son œuvre, nous sommes sa propriété. Ce que nous faisons ensemble, évidemment nous le faisons avec son aide, avec sa participation. Mais nous le faisons pour lui, avec lui et en lui. Et que cela nous encourage à nous dire, on n'est pas seul. Nous sommes là pour Dieu et Dieu est là pour nous. Travaillons donc ensemble. Ayons la joie de travailler ensemble, de partager cette année encore ensemble dans la collaboration amicale, et que ainsi les gens qui verront ce travail qui se fait dans l'église ne verront pas Gaston et on va dire Gaston c'est très bien, il travaille bien, c'est un bon pasteur. Non, on dira pas waouh, ils ont un très bon conseil d'anciens là-bas avec eux. Non, on dira pas ils ont des bons diacres là-bas. Non, on dira pas ils ont des bons fidèles, des bons chrétiens là-bas. Non, on dira waouh, Dieu est grand dans cette église. Dieu agit incroyablement. Il est vraiment vivant. Il est vraiment puissant dans cette église. Ça, c'est notre joie. Ça sera notre bonheur. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que c'est toi le Dieu qui montre la voie, qui montre le chemin à suivre. Merci de ce que tu montres à travers ta parole. Merci de continuer encore à nous parler, à nous inspirer, à nous aider. Merci de rassembler ton peuple ici, dans cette église d'Otigny, comme un seul peuple. Seigneur, merci de lui donner cette disponibilité de cœur de pouvoir travailler dans une seule stratégie, avec une seule coordination. Seigneur, permets que ensemble, Seigneur, nous puissions à la fois développer cette dimension de travail de terrain, mais aussi cette dimension de nous mettre sous ta bannière, d'être à toi. Pas seulement en te confiant ce que nous faisons dans la prière, mais aussi en vivant avec toi, en vivant dans la soumission, dans ton autorité, Seigneur. Seigneur, aide-nous à être de ces chrétiens, Seigneur, qui dans notre façon de coopérer ensemble, Seigneur, nous sommes là pour aussi nous prêter main forte. Ne pas nous réjouir des faiblesses des uns et des autres, mais comprendre que nous sommes ensemble pour réussir et que quand il y a des faiblesses, nous sommes là pour nous aider à nous porter vers le haut et aller de l'avant et réussir ensemble. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissants. Ne pas oublier que tout ça, ce n'est pas nous, c'est toi, Seigneur, à l'œuvre. Et qu'ainsi, en nous rappelant cela, nous laisse dans l'humilité pour que nous remettions toute la gloire chez toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui mérites toute gloire de toute éternité. Seigneur, sois-nous favorables dans le nom de Jésus. Amen.